J'ai réfuté totalement ce qui
s'est passé. Moi, j'ai été de moi au Cacangas. Je pense que, en combinant les deux, ben, si je suis de maîtrise des banques, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro des paroles aux auditeurs consacré à la protection des parcs nationaux, réserves et aires protégées en RDC. Des cas de braconnage persistent dans les réserves naturelles de la RDC. Ils sont exécutés généralement par des hommes armés et des hommes en uniforme incontrôlés. Selon l'Institut congolais pour la conservation de la nature (ICCN), environ 5 éléphants ont été abattus en 2011 par des braconniers. Cette casse illégale menace la survie des espèces protégées. Située de part et d'autre de l'équateur, la RDC possède une des plus riches biodiversités de la planète en raison de sa position géographique. Selon l'Institut congolais pour la conservation de la nature, la biodiversité de la RDC est caractérisée par 11 000 espèces de plantes, 409 espèces de mammifères, 1086 espèces d'oiseaux, 1069 espèces de poissons, 152 espèces de serpents. La faune renferme des espèces uniques et rares, par exemple les chimpanzés, nerfs ou bonobos, les gorilles de montagne, les rhinocéros blancs du nord, ainsi que l'okapi. Que proposez-vous pour lutter efficacement contre le braconnage en RDC? Nous en parlerons avec un délégué de l'Institut congolais pour la conservation de la nature ICCN en Sigue. Marie-Chantal Lumba, William Konda sont à la réalisation de cette émission mise en monde par Dieudonné Nyangaka sous la supervision de Nicole Ngaka, fidèle auditeur. Bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081-890-63-15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Et pour cette deuxième quinzaine du mois, vous pouvez nous joindre au 081-890-69-69. Mais vous avez aussi la possibilité de réagir pour donner votre point de vue sur la lutte contre le braconnage en nous envoyant votre réaction par SMS au 081-973-9650. Mais les auditeurs des Radio Capi qui nous suivent sur www.radiocapi.net ont la possibilité de réagir par l'adresse pa@radiocapi.net, mais également nous avons la page Facebook des paroles aux auditeurs, là où vous pouvez déposer votre commentaire, bien sûr, c'est la page qui porte le logo officiel de Radio Capi, et déposez-y votre commentaire qui sera exploité sur les antennes, comme l'a fait Thierry Kitemé, qui est à Kiwandia, à Routourou, c'est au nord de vous. Il dit ceci: je pense qu'il faut que le gouvernement s'implique à travers des campagnes de sensibilisation à la population qui réside aux environs de parcs. Il faut aussi renforcer les capacités des gardes-parcs, les équiper et qu'ils aient un salaire conséquent pour ne pas tomber eux-mêmes dans le braconnage. Nous savons que parmi ces braconniers, il y a ceux qui sont complices. Il faut également que le FARDC s'implique, car les gardes eux-mêmes ne peuvent pas faire face aux braconniers dont fait partie les FDLR qui détruisent notre patrimoine. C'est un point de vue qui est aussi partagé par Gulen. C'est le point de vue, bien sûr, des Gulen. Ça, c'est Thierry qui t'aimait. Mais le point de vue aussi partagé par Gulen et notre internaute. Il y a aussi Georges Wilstein qui dit si on doit mettre en place une bonne question gestion administrative de nos gares, de nos parcs nationaux, ainsi que les réserves. Il faut sensibiliser la population sur la protection de ce patrimoine. C'est un avis d'Erigan et Prince et Yossio qui sont à Bukavu. Christian Masirika à Bukavu dit ceci: il faut que le gouvernement congolais et les ONG qui œuvrent dans ce domaine puissent plus sensibiliser la population sur les dangers de braconnage. Et en direct sur les antennes, nous avons Charles qui est à Kolwezi dans la province du Katanga et Joseph est à Kananga au Kasai Occidental. Charles, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour, monsieur le président Gachamari, je salue tous La technique est
aussi
Madame
Marie-Chantal Lombard. Mais c'est Pierrot Yamegi qui a la présentation des paroles aux éditeurs, Charles. Qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter efficacement contre les braconnages?
En tout cas, monsieur, je viens juste deux pour ça. Vous savez, d'abord, sur base des braconnages, c'est là qui encourage les braconniers et les gens qui font les braconnages. D'abord, ce sont les clowns en cravate. On a fait une paire de propositions tant que les clowns en cravate ne font ces histoires-là. En même temps, vous savez, comme je peux vous les avouer, c'est là qui sont en train même d'encourager les clowns en cravate et le gouvernement. C'est que moi, d'abord, en tant que, par exemple, si je suis d'un militaire ou bien d'un officier de la police, on est fait une campagne sans avantage. La farine coûte trop cher. Alors, ce que je dis, je viens de vous demander, qu'est-ce que moi, je peux faire pour gagner de l'argent si j'ai beaucoup d'enfants, par exemple, 4 ou 5? Donc, c'est là, on m'encourage. Qui va m'encourager? C'est le gouvernement. D'abord, pour lutter contre le braconnage. Le gouvernement doit commencer d'abord à payer très bien les agents de l'État, aussi les militaires. Puisque la plupart des armes viennent des militaires. Et pour cela, comme ma proposition, ça m'a mis pour question de choses.
Merci.
Pardon, monsieur Pierrot. Vous savez, si je fais par exemple moi-même, par exemple, si j'étais un militaire, je vous dis que j'allais encourager ça. Pourquoi? Pour que je gagne aussi la vie. Pour que mes enfants puissent gagner la vie. Si je ne sais pas un jour, toujours, moi en tant que militaire, envoyer mes enfants pouvoir voir ce que c'est, et tant que moi-même, mes enfants,
Oui, c'est bon, on vous a suivi, Charles. Vous pensez qu'il faut d'abord améliorer les conditions de vie des militaires parce qu'ils sont impliqués, surtout dans les zones où il y a des parcs nationaux, des réserves, ils sont impliqués dans la gestion, dans la protection des parcs et des CDR. Alors, vous pensez qu'il faut les impliquer, améliorer leurs conditions de vie pour éviter qu'eux aussi puissent se verser dans le braconnage. Merci beaucoup, Charles. Vous êtes à Colosie et Joseph est à Kananga. Au Kassai Occidental. Bonjour Joseph.
Bonjour monsieur le journaliste, bonjour à tous les auditeurs de la radio Kassai.
Vous avez suivi, Charles, qui pense qu'il faut aussi améliorer les conditions de vie des militaires parce qu'ils sont liés directement à la gestion de parcs nationaux dans les zones où ils sont affectés, où ils travaillent. Alors pour éviter qu'eux aussi ne puissent tomber dans cette pratique, quel est votre point de vue pour une meilleure protection de ces parcs, Joseph?
Oui, à mon avis, monsieur le journaliste, je souhaiterais que l'État prenne des dispositions qui s'imposent, entre autres, déployer les efforts en vue d'étendre la zone protégée avec l'adjonction de certains parcs récemment créés, arrêter et condamner des contrevenants à de lourdes peines, monsieur le journaliste. Et puis, il faut mieux assurer la survie surtout des gardes-parcs. Vous savez très bien que non, ils sont dans une zone un peu très éloignée. Il faut maintenant assurer leur survie. Assurer d'abord leur mobilité et les assurer surtout en équipe, les armes. Avoir tout ce qu'il faut pour assurer la protection, soit de nos gardes nationaux, monsieur le journaliste. Et surtout, je vais joindre mon prédécesseur qui a parlé du problème de l'amélioration du social, surtout des militaires qui entourent et cadrent les parcs nationaux. Parce qu'un militaire, vous savez, c'est quelqu'un qui aime surtout avoir l'argent et puis manipuler l'argent à tout moment. Donc, il est à bout d'argent et puis il fait même commencer à lui-même à tuer surtout des espèces les plus protégées comme le capi, c'est un animal qui maintenant international coûte extrêmement trop cher avec sa peau qui aujourd'hui certains milliardaires du monde prennent sa peau pour décorer leur maison.
Voilà, merci Joseph. Beaucoup de propositions qui sont vraiment assez intéressantes. Vous avez pensé qu'il faut d'ailleurs étendre la protection jusqu'au parc qui est créé récemment. On parle du parc de l'Omami, n'est-ce pas, entre la province de Maniema, la province du Kassai oriental. Vous pensez qu'il faut aussi bien protéger ces parcs, mais au-delà de tout, il faut qu'il y ait des sanctions, des condamnations, il faut qu'il y ait des sanctions exemplaires pour les braconniers. Comme ça pourra décourager les autres, mais il faut aussi renforcer les capacités des gardes-parcs sur toutes leurs conditions de vue, mais aussi interdire les militaires qui sont concernés, qui vivent aux alentours de ces parcs pour éviter qu'ils puissent tomber dans le braconnage. Merci beaucoup, Joseph. Vous êtes à Kananga au Kassai Occidental et Malunga est à Bandunduville, dans la province de Bandundu. Bonjour, Malunga.
Bonjour, M. Perrault.
On vous écoute.
Ok, merci. Nous allons faire ce sujet. On nous tous, nous allons abonner seulement dans le même ordre d'idées. Bon, pour moi, je vois que nos parcs nationaux sont vraiment restés ou bien oubliés par l'État. Ce que nous allons abonder aujourd'hui, ceux qui sont les responsables de cette destruction, c'est l'État lui-même.
Dans quel sens, Malonga?
Oui, je veux commenter. Oui. Tout ce qu'il y a pour garder vraiment une bonne conservation de nos parcs, il faut d'abord assainir les villages qui sont en frontière ou bien en limite avec ce parc. Tout ce que la population qui est en connivence avec les gardes de parc et les offices, qui, comme nos prédécesseurs ont dit, pour exploiter ce parc sans autorisation de l'État. Alors, si la population qui sont chargés d'observer et de garder automatiquement ce parc, ils doivent aussi être gérés par l'État. Pourquoi? Parce que si nous évoluons, si nous montons un peu plus haut, l'État aussi, un pays, est bien conservé ou bien est bien surveillé si ton village qui sont construits aux frontières. Ce sont ces populations qui veillent à la surveillance de la franchise de ces frontières.
Mm-hmm.
C'est de la même façon aussi à nos parcs. Les villages qui sont construits à travers et d'autres des parcs, ce sont ceux que l'État doit très bien encadrer pour que s'il y a une violation, ce sont ces populations qui doivent dévaler ceux qui ont détruit ou bien ceux qui font de mal. Bon, du côté du braconnage, ce sont ces braconnages aussi qui viennent de ces villages, qui se font et qui sont maquillés en pays militaire, et ce sont les militaires qui sont mal vus. Or, ce n'est pas le militaire, c'est le fait qui est au point centre de cette destruction de nos parcs. Alors, pour moi, je vois que l'État doit surveiller, comme notre docteur a dit, doit surveiller sérieusement, sérieusement, ce sont les parcs nationaux. Hein, ce n'est pas les parcs privés, ce sont les parcs nationaux, agréés et inaugurés par l'État. D'où le responsable ou bien le ministère du Tutor doit vraiment veiller à ses responsabilités.
Merci Malonga. Vous souhaitez qu'il y ait d'abord l'encadrement des habitants, ceux qui sont qui entourent les parcs, parce qu'ils sont concernés par la gestion de ces parcs, sans qu'ils soient encadrés, mais que ces villages soient assainis, parce que sinon il y aura connivence entre les habitants de ces villages-là, les militaires, les gardes de parcs. Alors il faut qu'ils soient vraiment bien encadrés, et comme ça ils seront impliqués dans la gestion et la protection de ces parcs nationaux. Vous avez insisté pour dire que ce sont des parcs nationaux, ce ne sont pas de parcs privés. Nous avons John Kitika Kinshasa, Jérémy et Takabinda au Kassai Oriental. Vous allez avoir la parole, mais lisons ce message d'Alain Prince et Sabi qui dit ceci: il faut que l'État prenne les choses en main, il faut sanctionner le coupable. Alors là, il a raison. Joseph Kitaka a insisté beaucoup sur la condamnation, n'est-ce pas, de braconniers, ceux qui sont surpris en train de violer la loi en estimant les espèces et protégées. 081-890-69-69, c'est le numéro pour intervenir en direct. Et vous pouvez également le faire par la page Facebook des Paroles aux Auditeurs, déposer un commentaire qui sera exploité dans cette émission consacrée, bien sûr, à la protection des parcs nationaux.
Paroles aux Auditeurs.
Nous avons John qui est à Kinshasa et Jérémy à Kabinda. Nous avons notre invité déjà en ligne, je crois bien, à travers par téléphone, qui pourra intervenir d'un moment à l'autre. C'est Monsieur Cosma Wilungula qui est le directeur général de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, avec lui qui est en ligne avec nous. Monsieur Cosma, vous êtes en ligne, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste.
Merci d'avoir accepté de partager ce sujet avec les auditeurs autour de la protection des parcs nationaux. Nous avons déjà eu 3 auditeurs qui sont revenus, qui ont proposé pour eux, ils pensent qu'il faut qu'on puisse renforcer, n'est-ce pas, la garde au niveau des parcs nationaux, qu'on puisse améliorer les conditions de vie des militaires qui vivent dans les zones avoisinantes, les parcs. Beaucoup de propositions d'auditeurs, mais bien avant que nous puissions réagir, bien sûr, au propos des auditeurs, revenons d'abord sur l'état des lieux actuels en ce qui concerne les braconnages. Depuis la dernière fois que nous avons fait une émission avec vous sur ce dossier, où en est-on aujourd'hui la situation sur le terrain en ce qui concerne les braconnages?
Alors, non, aujourd'hui, la situation du braconnage est assez inquiétante, particulièrement dans la province, de, la province orientale.
Mm-hmm.
Nous avons pris beaucoup de dispositions pour contrecarrer cette situation au niveau de la province de l'Équateur, où plusieurs opérations ont eu lieu. Mais aujourd'hui, dans la province orientale, la situation est un peu plus complexe. Nous pouvons dire qu'il y a énormément de cas très malheureux de braconnage au niveau de la réserve de faune à Okapi.
Uh-huh.
Et au niveau pratiquement du Virunga, au niveau de la province de Nord-Kivu, et au niveau du parc national des Aramba. Donc dans ce rayon-là, nous avons un cas de braconnage très très pénible et qui dérange par rapport au site du patrimoine mondial.
Quels sont les aspects qui sont aujourd'hui visés directement par ces braconnages?
La situation telle qu'elle se présente, comme je disais, elle est très préoccupante. Nous savons que les efforts que nous fournissons sont multiples sous plusieurs formes. Ce que nous avons effectivement essayé de jouer avec nos effectifs. Nous avions des effectifs assez réduits, mais nous avons essayé de ménager les effectifs. Nous avons aussi trouvé d'autres possibilités par rapport aux moyens mobilisés, afin d'essayer d'impliquer les communautés ou toutes les populations riveraines. Et en dehors de toutes ces populations, vous savez que nos partenaires et nous-mêmes et l'UNESCO, nous avons mis en place de mécanismes pour demander l'appui du gouvernement qui nous est accordé au travers de papiers mixtes avec le FARDC.
Mmh.
Voilà un tout petit peu un mécanisme que nous avons monté pour essayer de contrecarrer toutes ces réalités de braconnage.
Voilà, monsieur Cosma, il y a cette question que je vous ai posée, peut-être que vous l'avez même suivi, c'est par rapport aux espèces aujourd'hui qui sont visées, qui sont menacées aujourd'hui, les espèces, oui, concrètement. Quelles sont les espèces qui sont visées, oui?
Non, aujourd'hui, c'est principalement dans la réserve des faunes à Okapi, comme le nom l'est dit, ce sont les Okapi.
Mm-hmm.
Ils ont visé, ils se développent un commerce, un trafic des faunes d'Okapi pour des raisons d'ornement. Qui devient pratiquement un marché très très grand dans le parti est de la République à travers le pays voisin. Il se développe aussi un trafic très important d'ivoire. Vous savez que ces deux produits aujourd'hui ont un coût qui est devenu très très élevé à tous les niveaux. Et bien sûr aussi le climat, parce que plusieurs eaux extérieures et même des gens dans leurs habitations essayer de vouloir élever les petits singes, les bébés gorilles, les bébés bonobos et consorts. C'est ça, ce sont des espèces qui font aujourd'hui objet de beaucoup de braconnage. Et principalement dans notre partie, ce sont les perroquets gris qui font aussi objet de cette fraude ou de ce trafic. Là, ce sont des espèces qui ont été beaucoup plus ciblées parce que ça rapporte à tous ces trafiquants par rapport à aux conditions aujourd'hui des pays demandeurs ou des autres demandeurs qui se développent à plusieurs niveaux. Voilà ce qui fait l'objet de ce trafic et que nous déplorons. C'est une très grande ressource du pays qui est en train non seulement d'être trafiquée, mais d'être braconnée et d'être détruite d'une manière assez dégradante pour notre pays.
Voilà. Il y a les auditeurs qui sont en ligne, mais une autre question, parce que vous avez parlé des mesures qui sont prises au niveau de l'ICCN, il y a ces patrouilles, mais il y a aussi un problème, parce qu'il y a les auditeurs qui sont revenus sur les sanctions. Y a-t-il eu déjà des cas exemplaires des arrestations des braconniers qui ont été condamnés d'une manière publique, bien sûr, une façon de décourager les autres? Mais de ce côté, qu'est-ce qui est fait sur le plan de la justice?
En fait, nous pouvons dire qu'aujourd'hui, au moment de la RDC, a essayé de... pas même essayer, nous sommes en train effectivement de bien arranger, de bien récupérer l'image de notre pays qui avait été trop sali par rapport à ça. On nous a traité de beaucoup de légèreté. Nous pouvons dire au niveau de la justice de braconner aujourd'hui qui se livre au braconnage et aux atteintes à la vie humaine de nos gardes-parcs. Ce sont vies effectivement condamnées. Nous avons aujourd'hui à la prison de Ndolo à Kinshasa, 14 prisonniers, 14 braconniers qui sont condamnés et une condamnation à vie. Ça signifie que c'est la peine la plus lourde. Cela déjà demande pourquoi peut-être on peut arriver jusqu'à des peines comme ça. La procédure judiciaire a été respectée au premier degré de la cour militaire et au degré d'appel, parce qu'ils ont même interjeté appel et ils ont été condamnés jusqu'à ce niveau-là. Et nous avons voulu qu'ils soient transférés pour purger leur peine à Kinshasa. En fait, il y a des actions et nous continuons. Tous ceux qui sont dans, au niveau de la réserve de Fana Okapi, nous les prévenons que tout ce que nous allons attraper, ceux qui seront connus, nous porterons plainte contre eux et nous avons tout un dispositif judiciaire et tout nos cabinets d'avocats. Nous avons fait après ces 4 cabinets d'avocats qui ne sont là que pour ça. Et c'est un appui très important pour lequel nous sollicitons nos partenaires qui nous ont pris dans ce mécanisme judiciaire. Et pour ça, nous allons jusqu'au bout. On ne peut plus prendre les braconniers et les mettre dans un cachot, une prison, sans qu'il y ait un acte, un jugement qui pourrait être fait à leur niveau. Aujourd'hui, nous portons plainte contre eux et nous défendons la cause des ressources de notre pays jusqu'à ce qu'il y ait condamnation de tous ces secteurs. Donc, c'est vraiment un fait très éloquent qui donne maintenant l'honneur à notre pays à travers de toute la communauté internationale. Et nous ne faisons plus la blague, mais on conduit ces gens-là dans un processus judiciaire qui honore d'abord la conservation et les aires protégées et qui honore également les gardes tombés. Nous sommes des pays qui payent le prix ou les tribus les plus lourds au monde pour la conservation de la nature. Arriver dans 10 ans à perdre plus de 260 gardes tués par les braconniers dans ces accrochages, ça n'existe nulle part au monde. Mais voilà pourquoi nous sommes arrivés jusqu'à ce niveau-là. En fait, que ces gens-là puissent être réellement aussi vengés et qu'ils soient honorés leur mémoire par rapport à ce qu'ils ont fait pour la protection de notre pays.
Voilà, on vous garde en ligne, le temps d'écouter ce que les auditeurs pensent de la protection des parcs nationaux. Mais il y a d'autres questions que nous avons évoquées. Il y a cette question autour de la ramification de ces réseaux, parce que vous avez parlé de pays voisins. Qu'est-ce qui est à ce niveau-là? C'est une question à laquelle vous allez répondre. Le temps pour nous d'écouter John qui est à Kinshasa et Jérémy qui est à Cabinda au Kasaï Oriental. John, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
On vous écoute. Votre proposition pour lutter efficacement contre le braconnage, vous avez suivi au niveau de l'ICPN les mesures qui sont prises, et les efforts qui sont fournis, et vous, en tant que population, en tant que Congolais qui profitez de ce patrimoine, qu'est-ce qui doit être fait efficacement pour protéger ces parcs nationaux et ces espèces qui sont menacées de disparaître?
Oui, je ne voudrais pas revenir sur ce que mes prédécesseurs avaient déjà dit, l'amélioration des temps de vie des gardes-parcs, renforcer la sécurité, mais je voudrais tout de même souligner que la lutte contre le braconnage doit être considérée comme l'affaire de tout le monde. Pour le moment, moi je suis élu député national de Niangara, dans la province orientale, et je suis ici à Kinshasa. Je connais parfaitement ce qui se passe dans nos parcs là-bas, du côté de la Garamba. Alors, on peut organiser aussi des séminaires de conscientisation, pas soit pour ces mêmes gardes-parcs, parce que parfois les braconniers agissent d'intelligence avec eux. On organise des séminaires de conscientisation pour les gardes-parcs, on organise des séminaires de conscientisation pour tous ceux qui habitent les aires protégées. C'est la première proposition. La deuxième, le gouvernement devra éviter que les parcs soit touché par des guerres. Parce que quand il y a guerre, c'est terrible. Vraiment, quand je parle comme ça, je me rappelle de ce qui s'est passé chez moi dans la province orientale, dans le parc de la Garamba. C'est terrible. Là, je ne sais pas aujourd'hui s'il y a encore combien de rhinos blancs. Je sais qu'il y a un peu plus d'Okapi, mais il y a combien de rhinos blancs? Je ne sais pas. S'il en existe, je ne sais pas. La quatrième proposition, je proposerais que l'on frappe avec la dernière énergie toutes personnes qui sera prise en flagrant délit de braconnage ou d'intelligence avec des braconniers. Et là, c'est seulement la prison à vie. Si on commence à arrêter les gens comme ça, toute leur vie, le reste de leur vie, ils les passent en prison, je pense que ça va décourager tout le monde, et ça va encourager aussi tout le monde à protéger ces aires protégées. Voilà un peu mes quelques propositions, M. le journal.
Merci, John. D'ailleurs, c'est mieux que vous êtes élu député national et maintenant vous allez siéger ici à Kinshasa. Ça va vous donner toute l'occasion de pouvoir ouvrir l'œil au niveau du gouvernement, s'occuper de cette question plusieurs fois et en parler parce que vous allez être au siège des institutions. Merci beaucoup, John, de vous êtes ici à Kinshasa. Jérémy, vous êtes à Kabinda, c'est dans le Kasaï oriental. Bonjour, Jérémy.
Bonjour.
On vous écoute, Jérémy. Vous avez suivi les uns et les autres. Qu'est-ce que vous ajoutez au-delà des faits qu'ils ont dit pour la protection des parcs nationaux?
Les propositions sont les suivantes. Comment est-ce que les braconniers vont entrer dans des parcs lorsqu'il y a des parcs? La première chose que l'État doit faire, c'est d'abord bien payer les gardes.
Mm-hmm.
Si les gardes ne sont pas bien payés, mais ils vont parler à entrer et faire des bêtises.
Mmh.
Donc, il faut d'abord encadrer les gardes pour pas pollution.
Merci, Jérémy. Vous pensez qu'il faut mieux encadrer les gardes parcs. Nous avons Ben Achilendoula qui est à Lubumbashi qui dit ceci, qui nous a écrit bien sûr sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs. Le braconnage persistera tant que notre État ne s'impliquera pas dans la sauvegarde de nos patrimoines. En suivant des prières, ce sont des militaires par essai. Il y a des policiers, il y a aussi des agents de l'ICSM et d'autres personnes, hein, que moi je suis, qui soutiennent ces pratiques illicites. Ça, c'est le point de vue de Ben Achille qui est à Lubumbashi. Dani Ouassu qui est à Boutembo Nord qui vous dit ceci. Les Congolais doivent prendre conscience et aimer leur pays contre la corruption. Bien fait, Dieu de Bounia. Il faut des sanctions exemplaires. Et pour les groupes armés congolais étrangers, il faut les traquer jusqu'à leur dernier retranchement, car ce ne sont pas les moyens qui manquent dans ces pays. Joël Tamboué Delicati dit ceci. Je me demande s'il y a des autorités avec tout ce que nous prenons, tout ce qui passe dans notre pays, et surtout en ce qui concerne la menace des espèces rares. Je me demande ce que le gouvernement fait. Pour moi, il serait mieux que le Parlement puisse interpeller le gouvernement sur cette question. C'est le point de vue de Joël Tamboué qui est à Likati. Nous allons revenir à notre invité pour pouvoir commenter ce point de vue des auditeurs et aussi quelques autres questions que nous avons.
Le sport sur Radio Okapi, c'est une question de condition physique. Imaginez partir de Kinshasa en 800 mètres et débarquer en Mbandaka en canoë-kayak, franchir les forêts de la province orientale en saut en hauteur, décrocher une médaille de bronze à Lubumbashi, traverser le lac Kivu à la nage, style papillon et j'en passe. Okapi Sport, un ensemble de correspondants et une équipe de présentateurs bien en forme pour vous apporter l'information sportive là où vous vous trouvez. Okapi Sport, car la passion du sport est sur Radio Okapi.
Monsieur Kota Oulungula, vous êtes Kofa Oulungula, excusez-moi, vous êtes avec nous sur les antennes. Vous avez évoqué tout à l'heure la question de réseau, des ramifications au niveau des pays voisins. Quels sont les efforts qui sont fournis, bien sûr, avec les pays voisins, parce qu'on sait la situation à nos frontières, hein, on sait comment cela se passe, mais quels sont les efforts qui sont fournis de l'autre côté de ces pays pour effectivement freiner ces trafics, mais aussi au-delà, parce que ces pots des Bokapi, des Ivoires, tout ça sont vendus au niveau de l'extérieur, un peu plus loin. Quels sont les efforts qui sont fournis de ces côtés-là pour mettre fin, soit freiner par rapport aux frontières, ou soit aussi la commercialisation ailleurs?
Oui, en fait, la réalité dans ce domaine, c'est que nous sommes dans une collaboration transfrontalière avec les trois pays, ça vient le Rwanda, l'Ouganda et la RDC.
Mm-hmm.
Et dans le cadre de cette collaboration transfrontalière, qui est une tripartite suffisamment solide pour les relations, nous avons des patrouilles mixtes entre les trois pays et nous surveillons le mouvement de tous nos animaux. Nous avons un droit de poursuite
mm-hmm.
sur les braconniers de tous les abords, ce qui renforce nos capacités d'intervention au niveau de la relation entre les trois pays. Nous avons effectivement une bonne maîtrise de cette relation. Le problème, c'est souvent la fraude, comme elle s'appelle bien la fraude, c'est qu'elle passe par des voies détournées.
Mmh.
Ceux qui commettent ces actes ignobles passent par d'autres voies pour essayer d'aller trafiquer les produits de leurs actes. Ça, c'est ce qui échappe effectivement au contrôle même de nos collègues de l'autre côté.
Mmh.
Mais effectivement, nous essayons de voir ce qu'il faut faire au niveau du braconnage pratiquement dans notre pays. Nous sommes un pays post-conflit et nous avons des difficultés d'avoir suffisamment d'armes en circulation dans notre pays et les gens utilisent tout simplement pour essayer de faucher non seulement les gardes, mais commettre tous ces actes ignobles.
Mmh.
Donc, ce que nous pouvons voir, j'ai suivi les auditeurs dans ce qu'ils ont dit. Avec moi, le braconnage interne n'est pas très inquiétant parce qu'il est facilement réprimé. Mais le braconnage aujourd'hui est très inquiétant, c'est ce braconnage de trafic commercial qui a pris des réseaux beaucoup plus importants et qui touche même certaines réalités, si je peux le dire, je suis impliqué à d'autres niveaux. Ça, c'est l'aspect qui est surtout, c'est ça aujourd'hui qu'on est en train de vivre dans la province orientale, qui est certains responsables, que ce soit de l'armée, que ce soit territorial ou autre, dans le secteur où ils sont, eux-mêmes s'impliquent dans ces actes de braconnage et utilisent leur niveau, leur statut pour essayer de commettre ces dégâts et influencer la population. Mais nous savons que la sensibilisation, comme l'a dit l'honorable de Niangara, effectivement, ça, l'acte qui est plus important. Nous le faisons déjà au niveau de la sensibilisation, elle est très importante parce qu'on ne peut pas protéger ça notre population. Et nous cherchons à impliquer, puisque c'est une mise beaucoup à l'implication des populations dans la conservation, dans la protection de nos aires protégées.
Mmh.
Donc, c'est vraiment l'approche que nous mettons en vigueur pendant toutes ces années pour essayer de lutter contre ce braconnage.
Voilà, mais parce que vous avez évoqué le cas de ces réseaux au niveau même international, nous avons vu avec le diamant par exemple, avec le processus de Kimberley, on a vu des pressions, que ce soit au niveau du coltan, on a vu beaucoup de pressions en ce qui concerne l'achat des minéraux qui proviennent des zones des conflits qu'on appelle les minéraux des sangs. Mais est-ce qu'au niveau des produits, bien sûr, de ces patrimoines, y a-t-il des pressions aussi au niveau international en ce qui concerne la vente des ivoires? Y a-t-il des mécanismes pour peut-être mettre la main ou punir ceux qui commercialisent, qui utilisent, par exemple, les produits qui viennent du braconnage de la RDC? A-t-il le moyen de pouvoir les détecter et punir ceux qui sont impliqués au niveau international?
Oui, en fait, il y a moyen parce qu'au niveau international, vous savez, la RDC est signataire de la convention CITES, sur la Convention internationale sur le commerce des espèces en voie de disparition.
Mmh.
Et à ce niveau, avec l'appui d'Interpol, il y a des mécanismes très solides internationaux pour arrêter ou pour poursuivre des braconniers qui pourraient même fuir ou traverser les frontières. Au niveau de la CITES, nous pouvons vous confirmer qu'aujourd'hui, il n'y a pas une autorisation des ventes d'ivoire à travers le monde.
Mmh.
Il n'y avait que dans les 6 dernières années, une autorisation qui était accordée seulement à 4 pays d'Afrique australe. Donc l'Afrique du Sud, le Zimbabwe, la Namibie et pratiquement le Botswana étaient les 4 pays au monde qui étaient autorisés à vendre leurs stocks d'ivoire et c'était des stocks qui étaient connus. Et seuls 2 pays étaient désignés comme acheteurs, c'était effectivement la Chine et le Japon. Donc, en dehors de ces 2 pays acheteurs et en dehors de ces 4 pays vendeurs, dans les 6 dernières années, aucun autre pays ne pouvait vendre de l'ivoire.
Mmh.
Donc, il y a des mécanismes très solides qui empêchent aujourd'hui tout trafic d'ivoire. Mais comme on parle bien de trafic et de la fraude, ça signifie que des gens essayent de faire passer l'ivoire congolais, qui est un des pays effectivement assez important par rapport aux éléphants. Donc, nous sommes un très grand pays de l'ère de répartition des éléphants.
Mmh.
Et nous offrons effectivement à tous ces fraudeurs énormément d'ivoire par rapport à la porosité de nos frontières.
Voilà.
Si nous ne pouvons pas arriver à très bien protéger la limite de nos frontières.
Mmh.
Mais aussi, comme nous l'avons dit, les influences et les implications de certains responsables à certains niveaux, nous n'avons pas, on peut les dire, parce qu'ils sont en train de saper les efforts fournis par le reste des chefs de l'État, nous sommes en train de dénoncer ça. Et nous avons demandé qu'il y ait une enquête systématique au niveau de la province orientale, où il y a énormément d'implications dans ça, parce que ça leur donne les facilités de sortir à travers les frontières de l'Ouganda. Nous pensons qu'à ce niveau-là, nous pouvons avoir l'action d'arrêter effectivement ce braconnage. Dans la province de l'Équateur aujourd'hui, le chef de l'État avait instruit des patrouilles qui sont pratiquement appuyées par l'équipe des forces armées, et nous avons suffisamment nettoyé le braconnage au niveau du parc de Garamba. C'est une chose que nous apprécions énormément et qui va nous aider à demander la sortie du parc de Salonga sur la liste du patrimoine mondial en péril. Donc, à cause des efforts de lutte contre le braconnage, ce parc pourrait sortir de la liste en péril et devenir aujourd'hui un parc du patrimoine mondial et qui, dans des blasons, aura été pratiquement restauré.
Voilà. Nous aurons aussi à évoquer cette question de l'encadrement des populations qui habitent, qui entourent le parc. Après avoir écouté l'histoire qui est à Manono et Alain qui est à Ouvir, à Mekou, la province orientale, vous avez dit que vous avez sollicité une enquête. Nous souhaitons que l'enquête puisse aboutir, parce qu'il y a des implications, des gens qui sont connus, que les gens soient punis. Comme ça, les autres autorités, qu'ils soient politiques ou administratives ou bien locales, peuvent avoir peur de s'engager sur cette voie. Nous vous gardons en ligne. Nestor, vous êtes à Manono, dans la province du Katanga. Bonjour, Nestor.
Bonjour, monsieur le journaliste.
La protection des arcs, des parcs plutôt nationaux et des aires protégées, c'est là et au centre de notre débat. Quel est votre point de vue, Nestor, pour arriver à efficacement à protéger cela?
Bon, merci beaucoup de m'avoir donné l'occasion aussi de parler au protégeant des animaux du parc. Personnellement, j'ai des propositions pour bien encadrer tous les animaux du parc. La première est d'abord de sanctionner les victimes. Et au cas où il n'y a pas donc pas de solution, je l'empêche de changer d'équipe. Voilà mes deux propositions.
Merci. Vous pensez qu'il faut d'abord sanctionner les gens, mais s'il n'y a pas assez de solutions, vous pensez qu'il serait aussi mieux de changer l'équipe? En fait, là, vous parlez en termes de garde-parc ou bien des gens qui sont impliqués dans la gestion des parcs. S'il n'y a pas une efficacité, il faut qu'on puisse les changer. Merci beaucoup. Nous avons Alain qui est à Ouvira aussi. Bonjour, Alain.
Bonjour.
On vous écoute, Alain, pour la protection des parcs nationaux.
Oui, merci à la radio de la paix. Merci pour m'avoir donné la parole.
Merci, on va.
Oui, monsieur Tiro et la Médoua Kabedi, vous avez la seule question, que faut-il faire pour lutter contre le braconnage? Mais à mon avis, monsieur Tiro, la réponse est simple. C'est à moins qu'on n'en tienne pas compte de ça. Tout d'abord, ce qu'il faut faire, premièrement, il faut qu'on mette un prix raisonnable à quiconque de l'océan, c'est lui qui fait le braconnage. En second lieu, il faut mettre les sites de dénonciation à qui de droit, de tout dégât de braconnage qui est instauré. Un numéro téléphonique d'accès pour informer tout délit de braconnage. En troisième lieu, il faut renforcer la sensibilisation. Il faut que la sensibilisation soit adéquate et systématique à l'égard de toutes les couches sociales. En quatrième lieu, il faut mettre en justice tous les contre-valeurs face au braconnage. Et quand on va prendre toutes ces choses en compte, pendant que le gouvernement et les autorités n'en tiennent pas compte, et quand on va instaurer un numéro caché, qu'on veut pas même les taxes qui sont de payer l'utilité perdue, je pense que tout le monde doit dénoncer et doit quand même s'engager d'une manière ou d'une autre avec une grande efficacité pour mettre hors de bas de nuit tous les gens qui font des barbaries, tous les gens qui font des actes ignobles et qui n'atteignent pas compte de la valeur du peuple congolais.
Merci Alain Douvira. Quatre propositions, vous êtes, bon, c'est cinq, on peut dire. Vous savez, d'abord, pense qu'il serait mieux qu'on puisse mettre, disposer une récompense pour tout celui qui va dénoncer les cas des braconnages. Mais il serait mieux aussi d'avoir un site là où les gens peuvent aller se plaindre, là où ils peuvent aller dénoncer, à cela associer un numéro vert ou à travers lequel la population on peut appeler pour dénoncer, signaler tout abus et aussi sensibiliser la population et arrêter et condamner. Voilà les propositions concrètes pour lutter contre le braconnage. Merci beaucoup Alain, vous êtes à Ouvira aussi qui vous. À qui vous, c'est Freddy qui est en ligne. Bonjour Freddy.
Bonjour Radio Kapi, moi c'est Freddy Mayenge à partir de Kindo, comment
on vous écoute Freddy.
Oui, sinon moi, pour lutter contre le braconnage, je commencerai d'abord par identifier les braconniers.
Mm-hmm.
Qui sont ces braconniers-là qui sont en train de massacrer, de tuer nos animaux très protégés? Je pense que dans un premier temps, c'est d'abord la population. Hein, la population qui se trouve dans les lieux du parc.
Mmh.
Et c'est cette population-là qui est complice. En plus, maintenant les braconniers ou bien les autorités qui sont censées détenir les armes et qui peuvent être en mesure d'abattre par exemple les éléphants, ils passent par la population. Maintenant, pour lutter contre les braconnages, à mon avis, je pense que nous en avons le cas au Manima. Il y a le projet d'État où déjà un parc est PLD. Choa Palomani Walaba, mais la sensibilisation est trop faible. Si on demandait par exemple à un élève de Kindu ou de Kibongo, que signifie tel de, il ne saurait même pas répondre. Comme la sensibilisation est trop faible, pour lutter contre les braconnages, il faut commencer par les causes. Il faut d'abord sensibiliser. Ensuite, pour notre invité là de l'ICCN, vous savez que il a trouvé, l'ICCN a trouvé une population, les Wala, les Balanga par exemple, et le Bangengele, c'est une population qui ne vit que de la chasse. Hein? C'est une population qui ne vit que de la chasse. Qu'est-ce que l'ICCN a prévu pour cette population, pour l'encadrement de cette population, pour que cette population s'implique dans la conservation de la nature? Je pense que, à mon avis, il serait mieux que pour les cas de réserves et des parcs qui sont en projet, que l'ICCN essaie un peu de voir. Pour les cas des populations qui ne vivaient que de la chasse, il fallait peut-être les ravitailler, transformer leur raisonnement, qui ne vivent plus des animaux forestiers. Cette fois-ci, il faudrait peut-être les apprendre à élever les animaux domestiques, leur apprendre, leur donner du bœuf, de moutons, et ainsi de suite, les encadrer de cette manière-là.
Merci.
Je voulais ajouter pour le cas du parc de la Maïko, par exemple, là, nous connaissons que le parc de la Maïko, c'est un parc qui n'a même pas d'infrastructure. Même si on veut parler de la sensibilisation, l'infrastructure du parc, si vous passez de Lubutu vers Walikale, vous ne verrez rien. Sauf à Bitoul, à 60 km de Lubutu, il y a quelque chose. Il faut aussi renforcer l'infrastructure. Et je ne saurais pas reprendre ce que les amis ont dit.
Merci.
Et les gardes du parc sont très malheureux. Il faut vraiment les encadrer de telle sorte que nous puissions, n'est-ce pas, conserver nos espèces qui sont très rares, qui sont cherchées dans le monde.
Merci beaucoup, Freddy. Vous avez vraiment maîtrisé le domaine. Vous avez donné des précisions d'ailleurs. Vous avez insisté beaucoup sur l'identification des braconniers, la population locale, les détenteurs des armes. Et là, vous avez déploré la faible sensibilisation en ce qui concerne le nouveau parc qui est en étude. Je crois bien, c'est au niveau des Lomami. Et la population locale n'est pas assez sensibilisée. Et vous avez posé la question de savoir qu'est-ce que l'ICCN pense faire de la population locale, les Balanga, les Bangengele qui ne vivaient que de la chasse dans ces parcs. Quels sont les mécanismes d'encadrement pour les aider à ne plus s'intéresser dans le braconnage? Et vous avez aussi posé le problème du parc des Maïko où il n'y a pas assez d'infrastructures. Notre invité pourra vous répondre parce que ce sont des préoccupations avec beaucoup plus de précision. Nous écoutons Pierre qui est à Lubumbashi. Bonjour Pierre.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi. Moi, c'est Pierre Valussa et Lubumbashi. Par rapport à ces sujets d'aujourd'hui, concernant les personnages, je voudrais tout simplement, d'abord, vous faire voir un certain aspect. L'aspect que je voudrais un peu vous faire voir, c'est que, avant de condamner un acte, il faudra d'abord chercher la raison qui fait que cet acte soit posé. Parce que si nous voyons bien tout ce qui se passe dans notre pays, c'est vraiment le contraire de ce qui se passe dans d'autres pays. Voilà pourquoi je voudrais juste faire voir à notre gouvernement un certain aspect pour que nous puissions aussi un jour être au standard mondial sur le plan comportemental. Là, c'est la première des choses. Si il faut aujourd'hui condamner les braconniers, moi, à mon avis, je trouve que le gouvernement ne peut d'abord comprendre quelles sont les raisons qui poussent ce Congolais de détruire la nature qui fait la fierté de notre pays. Je pense que je ne peux pas encourager cet acte pour les braconniers, mais je sais que je dois poursuivre la raison. La raison qui fait que cet acte soit posé. C'est ça la première des choses. Donc je trouve que le gouvernement est irresponsable à plusieurs des choses, surtout sur le plan du support de la population. Parce que le gouvernement doit savoir Pourquoi la population se prend dans le secret d'histoire? Dans notre pays, nous sommes en train d'observer comment on est en train de respecter les ressources naturelles. Bon, mais si aujourd'hui ça se passe chez nous, ça veut dire que les gens qui font le braconnage ou les praticiens de ce système ou de cette pratique qui permettait la technologie, et un des raisons, voilà, et moi la raison que je trouve, d'abord, c'est le fait que la population n'est pas bien supportée par le gouvernement. Et je peux vous donner un exemple très banal. Lorsque la chèvre ne trouve pas de l'ordre à brouter, la chèvre peut se mettre à chercher à brouter sa corde, la corde qui la lie. Moi, je trouve que c'est par manque de l'ordre que la chèvre peut faire ça. Mais s'il y a suffisamment de l'ordre, la chèvre ne peut pas arriver à tout ça. Alors, ça, c'est un aspect. Maintenant, comme proposition que vous pouvez faire pour éviter ce système, parce que ce n'est pas un système à encourager, nous devons conserver la nature. Et aussi, normalement, nous devons aussi donner du respect à la loi qui interdit cela. Je pense qu'il faudra aussi de renforcer les mesures de sécurité, les mesures de sécurité de nos lieux de conservation des ressources naturelles qui sont des parcs en l'occurrence. Alors, il faut vraiment renforcer les lieux de sécurité. Première mesure, il faudra d'abord bien supporter ceux qui sont à la garde. Les militaires et toutes personnes conjointes qui sont impliquées dans cette affaire aussi, il faudra des mesures de sensibilisation. Ce que je trouve dans notre pays, monsieur le journaliste, c'est qu'il n'y a plus le système de vulgarisation de la loi. Mais s'il faut passer à une mesure quelconque qu'on donne à la population sans pour autant vulgariser d'abord sur ce problème, je trouve que ce n'est pas normal. Voilà. Le cas de la TGA qui s'est passé, on n'a pas vulgarisé sur ça, mais brusquement la population a été vraiment confrontée à ce problème. Il faut d'abord renforcer les mesures de surveillance, c'est-à-dire les mesures de sécurité pour conserver nos parcs et aussi supporter convenablement les gardes et aussi supporter à suffisance la population. Que la population ne soit pas enfermée.
Merci beaucoup, Pierre. On a suivi. Il faut sensibiliser, mais il faut aussi vulgariser la loi, améliorer les conditions de vie, améliorer les conditions de vie de la population pour éviter que les gens ne puissent se livrer au braconnage. Pierre, vous étiez à Lubumbashi. Nous avons Steve aussi. Steve pourra garder la ligne avant que l'invité ne puisse réagir à ces propositions des auditeurs. Nous avons Fidel Katunga qui dit ceci. Je crois que la meilleure solution serait pour notre pays de passer de la conservation policière à celle communautaire, c'est-à-dire celle impliquant directement les populations vivant autour des parcs dans la conservation. Faire donc de nos parcs des patrimoines communautaires avant d'être des patrimoines mondiaux. C'est un avis aussi qui partage Delphine qui est à Bukavu. Et puis Joseph Imbanga dit ceci, il faut améliorer les conditions socio-économiques des habitants environnant les parcs et les faire participer à la protection des faunes et flores car ils sont complices des braconniers pour la plupart. Sam Bastara de Bounia, je pense que ces braconniers n'ont pas totalement tort et que pour certains, ils sont obligés de le faire à cause du manque d'emploi ou d'une activité valorisante. À mon avis, qui peut accepter de détruire son pays s'il y a une bonne solution, s'il est bien rémunéré. Néanmoins, il faut renforcer les capacités des agents de sécurité. Et enfin, Mouichu Koulou, semble-t-il, dit ceci, il faut que le gouvernement se réveille par rapport à cela.
Parole aux auditeurs.
Monsieur Cosmo Lungula, vous avez suivi les auditeurs, ils sont tous revenus, il y en a qui reviennent sur les mêmes propositions, ce que vous avez déjà dit, mais il y a une question posée directement par notre ami Freddy de Kindou, c'est par rapport au nouveau parc, au niveau des parcs de l'Omami, il dit qu'il n'y a pas assez de sensibilisation sur le terrain, et les populations locales, ces populations qui vivaient de la chasse dans ces parcs, quelles sont les mesures concrètes d'encadrement pour les populations qui vivent? Que ce soit pour l'Omami, que ce soit pour d'autres parcs, pour éviter qu'ils ne puissent aller dans les parcs pour chercher à se nourrir, quelles sont les mesures prises et aussi les manques d'infrastructures au niveau du parc de Maïko et les autres qui sont revenus sur la sensibilisation et la loi.
Oui, je pense que les questions qui sont posées, effectivement, elles sont importantes. C'est qu'en fait, il n'y a pas assez de communication comme ils l'ont soulevé et les gens n'ont pas assez d'informations. Aujourd'hui, nous pouvons confirmer que nous avons réellement beaucoup de mesures d'encadrement. Au niveau de l'Omami, par exemple, disons à Sindou avec le parc de Tendir, nous avons eu toutes les concertations avec tous les chefs coutumiers. Nous savons que nous sommes dans un processus de création, nous sommes au début, et nous avons le mécanisme de pouvoir impliquer cette communauté-là à la préservation de ce parc. ce n'était pas possible hier, mais aujourd'hui, maintenant tout est possible, parce qu'hier nous étions tout au début, la population du Kind ne savait pas ce que c'est un parc par rapport à la préservation. Il a dit les Bangengues et les autres qui vivaient de la chance. Mais aujourd'hui, la province du Kindu, que nous tenons d'ailleurs à féliciter le gouverneur, a pu prendre un arrêté pour déterminer la période de chasse et la période de non-chasse. Aujourd'hui, le gouverneur a pris un arrêté pour le classement de ce bloc forestier de l'Omami, Kwapa et l'Alaba. Ce qui sont déjà deux actes importants. L'Assemblée provinciale a été impliquée et les concertations se sont étendues au niveau de tout le notable. C'est vrai, ça demande un peu de temps pour que chaque élève puisse arriver à comprendre ce que c'est élevé. Mais les efforts qui sont en train d'être fournis, dont ceux comme aujourd'hui au CAPI est en train de nous aider pour que les gens aient des informations, c'est ce niveau-là de vulgarisation, de médiatisation. Vous savez que les médias, les autres ont un coût, vous le savez très bien, ce n'est pas assez facile que tous les jours on peut parler de ça. Mais le bureau provincial de l'ICSN est déjà ouvert à Kindu. Une équipe de gestion est déjà à Kindu avec les partenaires de la coopération allemande et de la Banque mondiale. Tout cela, c'est pour permettre à ce que les gens intériorisent ce qu'on est en train de faire et que les gens à Kindu se rendent compte qu'il y a un besoin de pouvoir protéger. Mais qu'est-ce que nous donnons aux populations? C'est vrai qu'ils ont cité les éditeurs et quelques aspects. Nous aidons effectivement les populations à pouvoir faire de l'élevage, que ce soit les petits élevages, que ce soit les grands élevages. Nous aidons les populations même à faire l'agriculture par rapport à l'apport de semences améliorées, ainsi de suite, que nous apportent nos partenaires. Mais nous savons que tout ça, les actions ne sont pas tellement à grande échelle. Et nous sommes en train de travailler pour ça. Quand il parle du parc de Maïko, aujourd'hui, je peux lui dire que dans peu de temps ici, le financement que nous avons obtenu de la Banque mondiale pour le parc de Maïko est en cours. La semaine passée, il y a eu le lancement de ce projet et les installations ou les infrastructures du parc vont commencer à être construites. Il y a déjà des écoles, une école construite, un centre par nos partenaires et la station va être construite dans très peu de temps. Donc, nous sommes dans ce processus, nous sommes dans une période où nous sommes en train de réhabiliter presque toutes nos aires protégées autour de nos parcs, et les moyens qui faisaient défaut avant sont presque aujourd'hui compensés par l'apport de nos partenaires qui sont en train de nous aider à tous les niveaux.
Voilà.
Mais nous sommes certains que nous allons y arriver.
Merci.
Nous demandons un peu de patience et de compréhension à toutes nos populations qui sont déjà invité à s'impliquer dans la protection de tout ce patrimoine et qui du reste est leur patrimoine.
Voilà, on vous garde en ligne parce qu'il y a les deux auditeurs qui vont intervenir. Le temps d'écouter les deux minutes de flash d'information. On va revenir à vous pour écouter les derniers auditeurs et conclure cette émission dans la deuxième partie. Écoutons rapidement Steve qui est en Bandaka et Congo qui est en Bujimaï. Steve, parce qu'on tend déjà vers la fin de cette première partie, vous avez une minute et demie pour ramasser un peu d'une manière globale votre point de vue sur la protection des parcs nationaux. On vous écoute, Steve.
Merci beaucoup. Je salue d'abord les débats d'aujourd'hui parce que ça touche réellement la situation des montagnes. Vous le savez, je suis de la Kwapa et c'est là où le parc Salonga se retrouve réellement. Merci. Il est très important de noter ici que toutes les propositions données par les différents auditeurs, bien sûr, sont des propositions ramassées à vil prix comme ça, mais en réalité, les réalités qui sont sur le terrain, parce que moi je suis de là et je viens de là. Les situations qui se passent, les situations que connaissent les différentes populations au sein ou aux alentours du parc sont des situations qui sont peut-être différentes de ce qu'on constate ici. Je vais vous dire une chose. Qui sont les vrais braconniers? Est-ce que ce sont des populations seulement? Je vous dirais que les premiers braconniers, ce sont les conservateurs. Moi, je viens de là. Les conservateurs sont soumis aussi à de très mauvaises conditions de travail. Ce sont des conservateurs d'abord qui financent et qui arment la population. Posez-moi un peu la question. Comment ces populations arrivent à avoir des armes et avec des munitions? Ils trouvent ces armes où? Ce sont des villageois. Ce sont des autorités. Alors, au second plan, les conditions de vie de la population. Les débats que nous faisons ici ont des rapports avec, par exemple...
On a juste 30 secondes pour vous, on ne saura pas évoquer toutes les questions. Tout droit au but, vous avez dit, vous avez évoqué, on a suivi la ramification entre les conservateurs, la population qui n'a pas le moyen d'avoir des armes, parce que là, il y a Congo qui doit intervenir et on doit écouter le flash d'information. En 15 secondes, complétez ce que vous voulez dire pour qu'on puisse gagner les temps un peu rapidement.
En 15 secondes, le plus vite possible, je dirais, laquelle est la condition pour qu'il y ait amélioration de la conservation de la matière, ceci, c'est l'amélioration des conditions de vie des populations autochtones
population
et l'arrangement des conditions, non pas des conservateurs. Non, c'est tout.
Merci à les populations locales et les conservateurs, leurs conditions de vie améliorées, ça va aider à mettre fin à ces braconnages. Nous avons Congo qui est en Bujimaï. Vous êtes en ligne, Congo. Bonjour.
Oui, bonjour. C'est Congo Kabada de Bujimaï.
Vous avez aussi une minute hein, pour votre point de vue, pour connaître ce que les autres
ont dit. Bonjour, c'est juste là. Oui. Moi, je trouve que d'abord, les causes majeures qui amènent les autochtones ou les milices berbères qui sont l'autre de faire le braconnage, c'est d'abord la famine du côté de la population qui est sans emploi. Du côté des rebelles, c'est avoir à manger et aussi vendre les états. Alors, la solution la meilleure selon moi, moi, je veux voir les frontières de la RDC. Parce que l'Est a des entrées partout, des sorties partout. Alors, il faut congolais, avec le ministre de la Défense et Sécurité, voire aussi le ministre de l'Environnement et de la Conservation de la Nature, qui peuvent en commun accord prendre des mesures allant dans le sens de sécuriser l'Est et les frontières de la RDC.
Merci, merci, Congo.
Il y a pas des entrées de quoi, des gens de l'Est.
Voilà. Vous insistez beaucoup sur les mesures à synergie entre le ministère de la Défense, le ministère de l'Environnement pour renforcer et bien sûr la sécurité aux frontières. Nous demandons à notre invité, le directeur général de l'ISSN, de rester ensemble avec nous. On va sur le flash d'information de Radio Capi. On va revenir pour la dernière partie, la conclusion de cette émission consacrée à la protection des parcs nationaux.
Radio Capi, un partenariat entre la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo et la Fondation Hirondelle. Avec le soutien des gouvernements de Suisse, de Grande-Bretagne, de France, de Suède, d'Allemagne et de Belgique.
Merci pour cette flash d'information de Radio Capi. Parole aux auditeurs se penche sur la protection des parcs nationaux parce que les cas de braconnage sont persistants à travers le pays. Nous en parlons avec M. Cosma Wilungula, directeur général de l'Institut Congolais pour la conservation de la nature. La dernière partie de cette émission consacrée tout simplement à quelques messages des auditeurs et la conclusion de l'invité. Nous allons lire les messages de John Biamungu, mais en attendant, Patricia, vous êtes à Lubumbashi, gardez la ligne. Nous allons vous accorder la parole. John Biamungu dit ceci, je pense que le grand problème à résoudre, c'est la restauration de la bonne gouvernance. Dieudonné Tikala Asitiwe dit ceci, si l'armée n'est pas bien payée, ils vont bien, et le braconnage pourra mieux se porter. Brakman Kyungu Kasongo qui est à l'Ikassi dit ceci, il faut une prise de conscience collective de la beauté et de la nature de la RDC. Et Libia qui est à Bukavu dit ceci, c'est vraiment regrettable que cela puisse se produire dans un Congo où tout est prioritaire. Je pense qu'il serait temps de bien savoir dans quoi on investit. Investir dans le tourisme, que ce soit de manière privée ou publique, serait une solution durable de protection des ressources naturelles dans la mesure où on en défend et on protège les sources de nos revenus. Il est grand temps pour que nous cessions de considérer le tourisme comme un secteur d'arrière-plan qui survit hors de nos villes alors que c'est une vraie vache aller dans d'autres pays. Il est vrai que l'aspect sécuritaire compte beaucoup, mais il faut aussi investir. Les mines et les carrières sont protégées à l'Est parce qu'on grand chose. Il serait mieux d'appliquer la même politique pour les touristes pour que les générations futures puissent en profiter. Revenus, emploi, écologie. Jean-Pierre Salongo, il faut que la bonne information circule sur l'importance des parcs. L'information est une chose importante et non interdiction. Rodrigue Kalumendo, qui est à Boutembo, dit ceci, tout devra partir du gouvernement. Il faut instaurer la paix car les groupes armés, ils sont pour beaucoup dans les braconnages. Même avis que partage Barak Ondemo, qui est en Bandaka. Yves Katsu aussi de Bukavu dit ceci, la sécurisation des parcs nationaux, pour cela, les pouvoirs publics doivent déloger de nos parcs nationaux les groupes armés qui ont élu domicile où ils effectuent des braconnages, qui seraient pour ces derniers une source de financement. Il faut sensibiliser la population, il faut une portion importante de nos populations, une portion importante de nos populations vit dans les parcs et les considère comme leur milieu de, naturel. Et ces populations ne vivent que des produits de leur milieu naturel. Il faut que l'autorité compétente délocalise ces populations pour les installer dans d'autres lieux où une vie agréable leur sera réservée. Et enfin, il faut que les autorités prennent en compte nos propositions. Vincent Nikulimouchi Mwenewa Boukietagoma dit ceci, le braconnage reste le moyen de survie des gens, surtout ceux vivants dans nos herbes, nos réserves. Il faut leur trouver autre chose. Patricia, vous êtes en ligne de Lubumbashi, bonjour.
Bonjour, c'est Patricia de Lubumbashi. Moi, ce que je voulais dire, c'est que le gouvernement doit d'abord améliorer les conditions de vie des gardes et aussi demander aux Congolais eux-mêmes d'aimer la nature et aimer ce que Dieu nous a donné. Moi, je pense que sans amour, on ne peut rien, on va toujours détruire la nature et détruire tout ce que Dieu nous a donné, c'est ce que mon gars a dit.
Merci beaucoup, madame, ça fait plaisir d'avoir une voix féminine dans Parole aux auditeurs. Vous avez proposé à la population de pouvoir d'abord aimer la nature, et puis aussi d'améliorer les conditions de vie des gardes et parcs. Moïse, vous êtes à Manono dans la province du Katanga, bonjour.
Bonjour Pierre Lamégie, bonjour à tous nos auditeurs, bonjour aux salinités.
On vous écoute, Moïse.
Oui, je dirais un problème qui se pose au Congo dans mon pays. Au Congo, on s'attaque aux conséquences au lieu des causes. Et c'est ce que moi je proposerais pour lutter contre ce braconnage. Il faudra d'abord améliorer la condition de vie des gardes des parcs. Ça, c'est un. De deux, renforcer la sensibilisation à la population qui vit tout autour du parc.
Oui.
Et enfin, l'application de la loi. Je vois que la loi n'est pas appliquée. Ok. Oui.
Ok, voilà. Merci, Moïse. Voilà. Vous avez proposé d'abord l'amélioration des conditions de vie des gardes-parcs, le renforcement de la sensibilisation auprès de la population, surtout celle qui vit autour de ces parcs, mais il faut aussi l'application de la loi. Et là, vous faites allusion, je crois bien, aux sanctions envers et contre ceux-là qui se livrent au braconnage. Nous allons écouter, je crois, peut-être un dernier auditeur avant de donner la parole à notre invité pour la conclusion de cette émission consacrée, bien sûr, à la protection des parcs nationaux.
Ah, avant
Amiti, vous êtes à Kindo Maniema. Vous avez deux minutes pour conclure au nom des auditeurs et puis M. Cosma Olungula va mettre un point final à cette émission. Amiti, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous êtes à Kindo Maniema, on vous écoute rapidement.
Ok, merci, je suis à Kindo. Heureusement, mon prédécesseur, M. Fridi, a tout déclaré, a tout démontré devant la radio. Monsieur le journaliste, mon producteur aussi qui vient de parler de tout là, il vient de dire que voilà, on s'attaque aux conséquences et non aux causes. C'est clair. Vous voyez, par exemple, moi j'ai déjà effectué une mission de service dans le parc de Maïko. Il y a des grands villages. C'est un lieu de refuge de rebelles, de Maïmaï. Ils font des bêtises là-bas. Ils sont bien armés. Et puis il y a des carrières de mines. Bon, moi, c'est vrai de me poser la question. Comment les responsables, le directeur de l'ICC, d'après lui, voilà, il y a des dispositions sont prises pour lutter contre la destruction de nos parcs. Pendant qu'il y a des carrières, il y a des villages, des écoles, et tous ces villageois-là vivent de la chasse. Ici, chez nous, on n'a pas de on n'élève pas des animaux. On vit que de viande de nos forêts. Ici, on vient de créer un autre parc ici, à Kindo, à faire de distance de la ville de Kindo. Alors, le secrétaire parlait de Bangengen et de Balang. Moi, j'étais un agent électoral dans la forêt de Balang là-bas. Mais il y a des pygmées là-bas. Ces pygmées vivent de la chasse. Et ici, on n'a pas préparé pour les délocaliser. Il y a des Balang qui sont toujours dans la forêt. On ne cherche pas les délocaliser, on cherchait un autre village pour les mettre là-bas. Comment on va arriver à protéger cet environnement où ces animaux là-bas?
Voilà,
là, j'aimerais dire que voilà, le gouvernement congolais doit prendre des dispositions. Et puis, vous voyez, c'est une pièce de rechange. Si vous prenez des dispositions contre ces gens, il faudrait remplacer ce qu'on a pris comme décision.
Merci.
La forêt, on remplace avec d'autres choses. chose.
Merci beaucoup, Amici. Avec beaucoup de précision, vous avez présenté votre point de vue. Nous revenons à vous, M. Cosma Oulung. Là, vous êtes avec nous.
Oui.
Voilà, c'est pour...
Je suis avec vous, c'est voilà. Que je suis déjà en Brazzaville. J'espère que je n'aurai pas de problème de connexion.
Non, c'est très bon. On a senti que vous êtes intervenu tout le long de cette émission pendant que vous êtes en train de vous déplacer. Et c'est bon, la connexion, la ligne, elle est claire. Hein. C'est pour conclure cette émission. Vous avez suivi les uns et les autres. La situation est inquiétante, elle persiste. Mais en définitive, qu'est-ce qu'on peut retenir dans la lutte contre le braconnage eu égard à tout ce que les auditeurs ont pu dire? Vous avez 3 minutes pour conclure cette émission.
Merci beaucoup. Je tiens d'abord à féliciter Radio Capi pour ces efforts que vous faites afin d'apporter au loin en fait le cri de la conservation. Et nous savons que de ceux qui participent et qui contribuent beaucoup, c'est effectivement pour ça que vous appelez au Capi, parce que c'est aussi une espèce totalement protégée.
Voilà,
nous tenons effectivement à remercier aussi tous les auditeurs par rapport à leurs avis et leurs considérations. Nous voulons dire que le ressources naturelles de notre pays, c'est notre richesse, et nous pensons qu'il n'y a pas de raison d'essayer de conditionner leur protection et leur sécurisation par rapport à tous les autres aléas que nos compatriotes essaient d'avancer. C'est vrai, les conditions de vie dépendent de beaucoup de facteurs. Il n'y a pas que l'ICCN qui peut donner les meilleures conditions de vie à la population. Il n'y a pas que l'ICCN qui peut apporter tout ce qu'il faut pour le bien-être de la population. Ce qui est important à faire, c'est que nous tenions chacun compte de nos responsabilités à tous les niveaux. Mais que nous comprenions que les richesses dont nous, que nous protégeons, ces espèces animales, ces espèces floriques, sont de grandes richesses qui vont améliorer les conditions de vie de notre population. Au risque d'être dans un cercle vicieux, nous nous invitons la population à comprendre que le parc, à tous les niveaux, sont d'abord leur part. C'est d'abord un patrimoine national, un patrimoine local, et que nous avons tous intérêt à y contribuer d'une manière ou d'une autre. Donc, nous les invitons à pouvoir y contribuer. Nous, nous faisons des efforts en tant que institution d'application de la loi pour appliquer la loi. Mais la grande solution, c'est l'implication des uns et des autres. La conservation, c'est une affaire de tout le monde. Si nous ne pouvons pas bien la faire, nous-mêmes, l'espèce humaine, nous pourrons demain devenir une espèce en voie de disparition. Si toutes ces forêts, tous ces animaux n'existent plus, ça fait partie d'une chaîne. Ce sont des maillons d'une chaîne de mécanismes de survie de l'humanité. Donc, s'il n'y a plus d'éléphants, sachez qu'il n'y aura pas de forêts. S'il n'y a plus de singes, sachez qu'il n'y aura pas de nouveaux arbres qui vont être poussés de soi-même. Donc, c'est toute une chaîne vitale qui existe. Et c'est ce que nous sommes en train de faire comprendre à notre population. Il n'y aura pas d'oxygène, il y aura des sécheresses, il y aura des désertifications. Donc c'est un maillon pour la survie de notre population, et chacun de nous est responsable pour ça.
Merci.
Voilà ce que nous pouvons inviter. Nous conscientiser les uns les autres à comprendre que la mission que nous faisons, c'est une mission humanitaire, c'est pour l'intérêt de tout le monde. Et nous avons intérêt tous à pouvoir y contribuer d'une manière ou d'une autre. Le bal des conditions que nous nous jetons, il n'y a pas de bonnes conditions, il manque ceci ou cela, les gens ne sont pas bien payés. Tout cela peut s'améliorer lorsque nous tous nous assurons une meilleure conservation de nos ressources naturelles.
Merci.
Voilà en fait ce que nous avons voulu dire en dernier mot par rapport à ça.
Merci beaucoup, M. Cosma Oulungu. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes le directeur général de l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Merci d'avoir accepté notre invitation à la fin de cette émission pendant que vous êtes en train de vous êtes en voyage de Congo Kinshasa à Congo Brazzaville tout le long du parcours où vous êtes intervenu. Nous vous disons beaucoup merci. Merci également aux auditeurs qui se sont disponibilisés pour cette émission, ceux qui sont intervenus avec leur point de vue. Parole aux auditeurs. On va vous retrouver demain. Ça sera bien sûr à 11h03 heure de Kinshasa.
Allô? Allô? Qui ne répond pas?
Et nous allons nous pencher sur un des sujets proposés par vous, auditeurs, hein, lors de l'émission spéciale consacrée aux purités de l'année 2012. Et c'est l'usage du téléphone portable, bien sûr, pour les enfants, hein, parce que vous avez proposé ce sujet. C'est que vous, auditeurs de Radio Capi, vous pensez de l'usage du téléphone portable que les enfants, est-il mieux de pouvoir confier un téléphone portable à l'enfant à partir de quel âge? Toutes les questions autour de ce que vous pensez du téléphone portable et des enfants, nous allons en parler demain. Inscrivez-vous à l'adresse pa@radiocapi.net. Merci à Marie-Chantal Lumba, Ouya Konda pour la réalisation de cette émission, mise en onde par Dieudonné Nyangassa, Nicole Ngakala, supervisée, et surtout ne vous déplacez pas, que le programme continue sur Radio Capi. Au revoir. Thank you.